Classique 21. Classic, you rock.
Classique 21, soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Explain, the nurse, all right, it's a leopard first, and you into the light, the edge of this series, the edge of the world, in the dog on a cross. Dance on Volcano, Genesis, donc pour la troisième partie de Soundtrack ce matin, et retour sur un album qui peut fièrement afficher son 50e anniversaire. C'est A Trick of the Tail, avec ce titre-là, ça n'est évidemment pas un hasard. Et on partage cette séquence avec Laurent Riepi. Bonjour Laurent.
Bonjour, oui, 50 ans hein, pour cet album. Et ce morceau hein, qu'on vient d'écouter, qui raconte déjà beaucoup de choses sur l'état d'esprit de Genesis entre 1975 et 1976, puisqu'à ce moment-là, le groupe vient de perdre Peter Gabriel, et pourtant, au lieu de s'arrêter, de se figer, ou de chercher immédiatement un remplaçant, ils vont continuer à écrire ensemble de la musique, ce qu'ils font très très bien, en se disant le problème du chanteur, on verra ça par la suite. Et Dance on a Volcano, c'est presque une déclaration d'intention, en fait, c'est montrer que Genesis avance malgré le manque, malgré l'incertitude, mais voilà, ils composent des morceaux, on ne sait pas encore qui sera le chanteur à ce moment-là, mais le morceau en tout cas évolue.
Et on sent comme une tension, enfin je dirais même peut-être une énergie très physique dans ce morceau.
Bah oui, ce morceau est presque plus rythmique, plus direct que ce que Genesis a proposé par le passé. Genesis donc se concentre ici sur son ossature, hein, donc ses musiciens, et c'est important de le dire, donc ces morceaux sont composés alors que le groupe ne sait toujours pas qui va les chanter. La priorité, c'est donc la musique. La question de la voix, comme je le disais, elle va venir ensuite.
Ouais, mais cette voix évidemment finit par s'imposer.
Évidemment, Genesis auditionne tout d'abord, quand même pas mal de personnes qui vont défiler, des dizaines de chanteurs, rien ne fonctionne vraiment, et pendant ce temps-là, une évidence commence à s'installer doucement, presque à contre-cœur. Phil Collins, il est là, il est chanteur, il chante les chœurs dans le Genesis, il guide les répétitions souvent, il connaît chaque respiration de chaque morceau, mais l'idée qu'il devienne le chanteur principal, ça va pas de soi dans le groupe. Ni pour le groupe, et encore moins pour lui.
Ce qui est assez étonnant, parce que quand on prend le timbre de voix de Phil Collins, c'est quand même un timbre qui est très proche aussi de celui de Peter Gabriel, mais malgré tout, même lui n'y croit pas vraiment.
Ah non, il n'y croit pas du tout. Dans sa tête, s'il chante sur l'album, s'il accepte de chanter sur l'album, ce sera alors provisoire, une solution par défaut, par dépit, j'ai envie de dire.
Pour les démos.
Voilà.
Ouais.
Il ne se projette pas comme frontman de Genesis, il ne veut surtout pas remplacer Peter Gabriel.
Et dans ce moment de doute, le regard de Steve Hackett est essentiel, parce que lui vit cette transition de l'intérieur et raconte très précisément comment cette idée de Phil Collins au chant s'est imposée. C'était presque malgré tout.
Oui, on va d'ailleurs l'écouter dans une petite interview que j'avais réalisée avec lui il y a quelques années, où il nous explique tout ça. À ce moment-là, on a commencé à écrire ces morceaux sans vraiment savoir qui allait les chanter. J'ai alors suggéré que Phil soit le chanteur. Mais l'idée a d'abord été rejetée, parce que Mike et Tony estimaient que ce n'était pas une bonne solution et qu'il valait mieux chercher quelqu'un d'autre. Pendant ce temps-là, Phil se mariait pour la première fois. À son mariage, j'ai rencontré Ian Anderson, le chanteur de Yes. Je lui ai parlé de nos hésitations et il m'a simplement dit « Phil a une voix très puissante, pourquoi ne pas le faire chanter et prendre un autre musicien pour compléter le groupe ?» C'est exactement ce que nous avons fait, en tout cas sur scène. Phil est passé au chant, il a continué à jouer de la batterie et nous avons eu la chance d'avoir Bill Bruford à la batterie complémentaire. Ça nous a énormément aidé. Le fait d'avoir Bill Bruford avec nous, quelqu'un qui était déjà une véritable star, a sans doute contribué à convaincre le public que c'était une très bonne idée et que Genesis pouvait continuer ainsi en formation un peu plus réduite ou légèrement modifiée durant nos concerts. Donc effectivement, ce témoignage est fondamental parce qu'en une minute, Steve Hackett nous dit tout. L'évidence musicale, les résistances psychologiques au sein du groupe, le regard extérieur d'un professionnel, Ian Anderson de Yes, et surtout cette solution scénique qui va tout débloquer.
Et en plus, quel chanteur, Phil Collins, parce qu'il faut voir comment il interprète les chansons, il les vit littéralement. Donc Phil Collins et Bill Bruford, là on se retrouve, c'est une formule qui va durer par la suite, c'est deux batteries sur scène.
Exactement, et c'est à partir de là que Genesis peut vraiment avancer. The Trick of the Tail n'est plus seulement un album en devenir, c'est un groupe qui commence à se redéfinir avec une nouvelle identité. Elle s'entend d'ailleurs très clairement dans un titre comme Untangled, qu'on va écouter. Untangled, c'est un titre qui naît d'un dialogue très précis entre le guitariste Steve Hackett et le claviériste Tony Banks. Contrairement à beaucoup de morceaux de Genesis construits collectivement, celui-ci est vraiment pensé comme une pièce presque à deux musiciens. Hein. Hackett écrit l'essentiel de la mélodie et des paroles du couplet, avec cette idée finalement d'un état de rêve éveillé, presque hypnotique. Hein. Voilà, c'est une thématique assez forte. Et Tony Banks va lui ensuite donner au morceau sa respiration finale, cette montée absolument majestueuse qui fait littéralement décoller le morceau vers le milieu.
Et il y a aussi ce son très particulier, très enveloppant.
Oui, en fait, ce son particulier qui repose sur un entrelacement impressionnant de guitares acoustiques, hein, des guitares 12 cordes qui sont superposées, jouées d'une part par Steve Hackett et de l'autre par Mike Rutherford. Ça crée une sorte de chatoiement très naturel, très délicat, mais qui demande une précision extrême, hein, en tout cas en termes de mixage, en termes d'enregistrement, pour ne pas que tout ça devienne brouillon. Mais voilà, on sait, Genesis sont des perfectionnistes et tout est dans l'équilibre ici.
Et on peut même ajouter à cela que les paroles sont aussi assez troublantes.
Oui, c'est volontaire. Hein. Hackett s'intéresse ici à l'hypnose, à la thérapie par le sommeil. On est dans une forme de confort médicalisé qui est rassurant en apparence, mais qui devient presque étouffant avec le temps. Il y a toujours cette ironie très britannique qui est un des secrets, hein, de Genesis, c'est cette idée de se sentir pris en charge un peu comme un enfant, et en même temps, malgré tout ça, de perdre le contrôle sur soi-même.
Et tout ça va nous amener à une fin qui est absolument saisissante.
Et c'est l'un des grands moments, des moments signature du claviériste Tony Banks sur l'album. Ce mélange de mélotron avec ses chœurs fantomatiques combiné au synthétiseur ARP qui fait basculer le morceau dans autre chose. En fait, le rythme glisse vers une sorte de valse en suspension. On est dans un univers un petit peu irréel, hein, qui évoque bien donc le monde du rêve. Et Phil Collins, là-dedans, ne cherche pas à s'imposer. Il ajoute des harmonies très discrètes, presque spectrales, qui renforcent cette impression de flottement durant tout le morceau.
Et de fait, changement de voix. Mais là, justement, on retrouve une autre manière d'utiliser la voix.
Exactement. Il commence à comprendre les différentes palettes de sa voix. Et sur Untangled, Phil Collins n'est pas encore devenu vraiment un frontman. Il est une voix parmi les autres, intégrée à la texture du groupe. Et ça donne, en fait, à ce morceau, et ça c'est amusant, un petit aspect à la Crosby, Stills & Nash. Hein. Il y a un petit très folk. Et c'est précisément pour ça que ce morceau est essentiel dans l'équilibre des différentes identités musicales qu'on retrouve sur Trick of the Tail.
Untangled, que l'on écoute tout de suite dans Soundtrack. Untangled à l'instant, donc ça c'est l'un des morceaux les plus intérieurs de l'album.
Oui, et c'est intéressant parce que après cette parenthèse presque hypnotique, Trick of the Tail va changer de ton, notamment pour la suite des morceaux, et le morceau qui va donner son titre à l'album, donc Trick of the Tail, apporte quelque chose de beaucoup plus narratif avec un petit aspect assez malicieux.
Ouais, c'est un titre qui est très différent dans son écriture.
Complètement, d'abord parce qu'il est signé par Tony Banks seul, ce qui est rare chez Genesis, et surtout parce qu'il ne date pas de cette période-là. En fait, Banks va aller regarder dans ses vieux tiroirs et va ressortir en fait un thème qu'il avait proposé. Alors, certains disent depuis Lamb Lies on Broadway, mais apparemment, ça vient même de l'époque Foxtrot, donc ça remonte largement loin dans le temps. Mais le morceau avait été mis de côté, j'ai trop léger, peut-être trop pop pour un album qui était sombre et conceptuel comme effectivement Foxtrot ou The Lamb.
Et là non seulement ce titre ici va trouver sa place, mais en plus ça va devenir la plage titulaire.
Ben oui, parce que le ton de A Trick of the Tail est différent et donc c'est une belle façon de marquer ce nouveau chapitre. C'est un conte fantastique, presque ironique, l'histoire d'une créature étrange qui quitte son royaume et découvre le monde des hommes. Et en découvrant le monde des hommes, elle se retrouve enfermée dans une cage dorée. preuve que le monde qu'elle vient de visiter n'est peut-être pas, est peut-être finalement, pardon, aussi cruel que le sien, voire même plus. Donc voilà, on essaie d'autres mondes, mais voilà, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
Ouais, tout à fait. Et alors, on s'éloigne aussi des grandes fresques tragiques.
Exactement. Il y a quelque chose de plus léger en apparence, mais qui reste acide, hein, dans le fond, musicalement aussi. Le morceau tranche par rapport à ce que Genesis nous a proposé. Auparavant, le piano est central, très percussif, presque sautillant. Tony Banks s'inspire clairement ici de certains titres des Beatles, de ce jeu très staccato qu'on retrouve par exemple sur Penny Lane ou encore Getting Better.
Et la voix de Phil Collins y joue là véritablement un rôle clé.
Oui, et c'est même à ce moment-là, grâce à ce titre, que le groupe va être convaincu de son choix de Phil Collins en tant que chanteur principal. Phil ne se contente pas de chanter juste, il incarne, il joue les personnages avec une pointe d'ironie, avec un côté théâtral, mais sans jamais forcer le trait. Et pour un groupe qui sort tout juste de l'ère Peter Gabriel, qui était extrêmement théâtral, eh bien tout ça est essentiel. Donc il sait devenir théâtral, il sait incarner des personnages, et ce, sans faire semblant d'être Peter Gabriel.
Ouais, tout à fait, c'est important de le souligner. Et puis alors, on sent aussi une production qui est très très précise.
Bah oui, qui est signée ici par David Henschel, qui avait notamment enregistré le fameux All Things Must Pass de George Harrison, hein, donc voilà, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il va travailler notamment sur le son de la batterie, qui est très compressée, très rebondissante, cette batterie presque élastique, ce qui donne au morceau une énergie assez ludique, en contraste avec les textures qui sont plus diffuses, hein, du reste de l'album. C'est un morceau, donc, Outwick of the Tale, qui respire, qui raconte et qui affirme surtout une chose: Genesis a enfin trouvé sa nouvelle voie.
C'est clair. Et donc, on va bien entendu refermer cette spéciale avec cette plage titulaire. Donc ici, je rappelle, hein, c'est les 50 ans de cet album. Il y a un article, hein, que vous avez écrit, Laurent, et qu'on peut retrouver aussi sur notre site classique21.be. On écoute ça, le temps de vous remercier puis de vous souhaiter un bon dimanche.
Bon dimanche.
Soundtrack. Part of the life in the city of gold, he'd left and let nobody know. Gone were the towers he had known from a child, along with a dream of a life. He traveled the wide open, the blinkered arcade, in search of another to share in his life. But nowhere, everyone looked so strange to him. They got no horns and they got no tail. They don't even know of our existence. Am I wrong to believe in the city of gold that lies in the deep distance? He cried. Read the sign.
And so we set out with the beast and his horns and his crazy description of home. After many days' journey, we came to a peak where the beast gazed abroad and cried out. We followed his gaze and we thought that maybe we saw a spire of gold. No, a trick of the eye.
Titulaire donc de A Trick of the Tail, cet album mis à l'honneur ce matin pour son 50e anniversaire.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.